Manchester qui a jamais été à la Hacienda, en ayant vu que trois photos, le mec a su vraiment bien recréer en images les scènes de club. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'ai toujours dit sur les films et sur le cinéma en général, qui essaye des fois de faire des scènes de club. Je trouve que toutes les scènes de club que j'ai vues au cinéma sont ratées. Mmh. À part peut-être une scène de club que moi je trouve très jolie dans Babel, mais à part ça, je trouve que toutes les scènes de club ne sont pas ce que moi je vois tous les week-ends.
Même dans Berlin Calling, par exemple.
J'ai pris la tête en se disant on va essayer de faire une belle scène de club qui ressemble à ce que nous on connaît.
Même dans le Berlin Calling, le film allemand avec.
Ouais, Berlin Calling, ouais, forcément, parce que là c'est vu de l'intérieur et c'est fait par un mec qui connaît très bien la scène. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que très souvent c'est quand même très décevant. Ouais. Et là, on est quand même sur un livre qui parle beaucoup de sueur, de danse, de bouger, de se réunir, de tout ça. Et je trouve que toutes les images sont très réalistes. Moi, c'est ce que moi je vois. C'est souvent la vision que j'ai de ma cabine DJ quand je regarde les gens. Tu vois, les gens, les corps bouger et tout. Je vois ça et je trouve que c'est très bien. C'est très très bien retranscrit en dessin et je trouve que c'est très réaliste. Donc ça m'a beaucoup touché. Et après, j'aimais bien le fait que Mathilde me dise non mais on n'a pas envie de faire un électrochoc bis, surtout que nous on était déjà en train de retravailler sur le nouveau chapitre d'électrochoc. Elle m'a dit on va être sur un truc qui est beaucoup plus poétique. Et comme elle à l'époque elle était déjà en train d'écrire une BD sur Sartre, j'ai lu les ébauches qu'elle faisait sur Sartre, je me suis dit c'est vraiment intéressant, son angle est intéressant, c'est-à-dire qu'on va emmener quelque chose de différent par rapport à l'histoire de la techno. On peut pas dire qu'avec cette BD on raconte l'histoire de la techno. On est plus sur un truc très imaginaire quand même.
On marque une petite pause.
Tout en restant très factuel, parce qu'on se retrouve à Chicago avec DJ Pierre quand il a fait le premier morceau d'Acid House. Et je trouve que les dessins avec la TB-303, les espèces de mouvements, d'ondulations dessinées dans la pièce, c'est exactement ça, une TB-303. Je trouve que graphiquement, ils sont vraiment arrivés à nous projeter dans l'univers et du son et de la danse et de tout ce que nous on connaît.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le DJ de référence de la scène française, Laurent Garnier. Il vient de sortir l'intégrale d'Electrochoc, plutôt c'est une réédition, ce qui nous permet à la fois justement de retrouver ce livre culte, mais également un livre réédité, enrichi. Alors Laurent, qu'est-ce que tu as rajouté à l'intérieur ?
Oh, on a juste rajouté un chapitre de 120 pages.
Ah oui, c'est tout.
Oui, écoute, c'est assez drôle, mais il faut savoir pour la petite histoire, on a eu des traductions d'Electrochoc dans plusieurs pays, notamment le Japon, le Brésil, la Russie, et pas l'Angleterre. Et ça, c'est un truc qui m'a chicoté quand même. Et à un moment, je me suis dit merde, j'aimerais bien quand même sortir ce bouquin en Angleterre. Et donc, j'ai contacté une traductrice et j'ai payé la traduction moi-même. Je lui ai dit, je veux une traduction anglaise, mais quitte à la filer gratos sur le net, j'aimerais que mes potes en Angleterre, qui n'arrêtent pas de demander depuis 10 ans, puissent lire ce bouquin. Donc je suis parti sur la traduction anglaise, et quand j'ai eu la traduction entre les mains, je me suis dit quand même, c'est vachement bien. J'ai rappelé David, donc le journaliste avec qui on avait écrit Electrochoc à l'époque, et je lui ai dit ce qui serait peut-être bien, ça serait peut-être de rajouter, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de pages. Il s'est quand même passé pas mal de belles choses ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de trucs, ça serait bien de rajouter 2-3 trucs. Et donc je contacte la boîte d'édition à Paris, donc Flammarion, et je leur dis voilà, puisque j'ai le droit de ressortir Electrochoc en Angleterre, je vais le faire, et puis je vais faire un petit chapitre. Et là, la personne chez Flammarion nous dit, mais si le chapitre est un peu conséquent, nous on ressort le bouquin parce qu'on arrive aux 10 ans de Electrochoc.
Ah, c'est bien.
Donc on est parti sur cette lignée là en disant écoute, on va peut-être faire 30-40 pages, et on est arrivé, je crois que dans le bouquin ça doit faire 120 pages en plus. Donc c'est 6 chapitres en plus. Nous on appelle ça le chapitre en plus, mais c'est 6 chapitres en plus.
C'est pas l'intégrale, c'est les intégrales.
Écoute, ça raconte beaucoup de choses. Je pense qu'il y a pour les gens qui ont lu Electrochoc à l'époque, ça en plus, là on parle des 10 dernières années. Alors rapidement, on parle de l'explosion de Berlin, mais on raconte l'histoire de Berlin depuis les années 20, parce qu'il se passe tellement de choses là-bas depuis toujours que c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé là-bas depuis longtemps. Dans la première partie sorti d'Electrochoc, on n'avait pas vraiment traité New York. Donc là, on a rencontré James Murphy et on a rencontré François K. Donc on parle un petit peu plus de la scène de New York à partir du disco jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On parle un petit peu de dubstep forcément, parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. On parle beaucoup de l'explosion des festivals, des grosses stars, de l'EDM, des dérives, la disparition du vinyle pendant toute une période, toutes les boutiques de disques ont fermé, le digital, le fait que maintenant, aujourd'hui, on est tous avec des ordis portables, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était pas forcément encore vrai. Les choses ont beaucoup changé, la façon de diffuser de la musique, la façon de la jouer, l'explosion totale de la techno. On parle de tout ça, puis aussi le questionnement de vieillir aujourd'hui dans une musique qui n'est plus si jeune que ça, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on écoute cette musique-là. Donc quelque part aujourd'hui, moi à 47 balais, des fois je me pose des questions, tu vois, en jouant de la musique devant des jeunes qui ont 20 ans, je me dis, est-ce que tout ça c'est bien pertinent? Donc toutes ces questions sont aussi dans le nouveau chapitre.
Mais c'est vachement intéressant et c'est pertinent justement parce qu'on a l'impression que tu te donnes comme un devoir de mémoire vis-à-vis de cette jeunesse, de cette scène musicale. Tu prends visiblement un plaisir fou à raconter justement toutes ces histoires et ces bouleversements. Et alors, finalement, toi, Laurent, aujourd'hui, où est-ce que tu trouves que l'électro se réinvente et se renouvelle le plus?
En France? Ah ouais, mais carrément, là, je trouve que depuis un an et demi, j'ai jamais vu la France aussi excitante, aussi excitée aussi. Je trouve qu'il y a tellement de choses, il se passe tellement de choses, alors que Dieu sait que j'ai été très très dur sur la ville de Paris et la nuit à Paris. Dieu sait que j'ai été extrêmement hardcore là-dessus, parce qu'il y a un moment où je trouvais qu'on se faisait tellement chier à Paris, c'était quand même pas possible, que là, aujourd'hui, je me rends compte qu'à chaque coup que je viens jouer à Paris, quand je joue, que ce soit à la machine, au Rex ou dans un autre endroit, je me rends compte qu'il y a 15 autres soirées et que les 15 autres soirées sont blindées aussi. Ça, c'était pas possible. Il y a 10 ans, c'était impossible. Il y a 10 ans, il y avait 3 trucs qui se battaient en duel. Aujourd'hui, il y a des festivals qui font 15 000 personnes. T'as Concrete, t'as des tonnes de choses qui font que la scène est vibrante. Et il y a tellement de nouveaux labels, tellement de nouveaux artistes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, dans le sud de la France, ça explose. C'est incroyable. Et je trouve que moi qui voyage beaucoup, parce que je continue toujours à jouer quasiment tous les week-ends, je me rends compte que c'est pas pareil dans tous les pays. Et je me rends compte que là, en ce moment, en France, c'est un peu l'endroit où ça se passe, quoi. Donc je trouve que la scène française est super excitante et super intéressante.
Un dernier mot, Laurent, est-ce que tu nous prépares un petit album, un petit track, un petit EP prochainement?
Ah oui.
Obligé, en tous les cas.
Tu voulais que je t'en dise plus?
Bah grave.
Alors je te dis ah oui, mais alors un gros ah oui.
Bon bah écoute, ça sera le plaisir de donc t'accueillir en live dans les studios d'FG pour nous parler de tout ça.
Pour dire, il y a pas mal de EP qui vont sortir là à partir de janvier.
Eh ben écoute, en tous les cas, ce sera le plaisir de t'accueillir en live et de parler tout ça avec toi, Laurent. C'est vraiment...
Carrément, avec plaisir.
C'était un plaisir de t'avoir. Laurent Garnier, retrouver à la fois l'histoire, les anecdotes des musiques électroniques à travers sa carrière et à travers deux possibilités. La version BD avec Rêve Syncopé aux éditions d'Argo. Une version plus riche, bourrée d'anecdotes, c'est Electrochoc. L'intégrale qui sort une édition totalement enrichie, officiellement un chapitre, officieusement 6. Et là, c'est Flammarion qui s'y colle. Dans les deux cas de figure, c'est laurentgarnier.com sur lequel vous pourrez tout trouver. Laurent, je t'embrasse et à très bientôt sur FG.
À bientôt.
Bisous. Ciao. Bye.
Janvier 2021. Antoine Baduel reçoit Warhackles.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Warhackles. On connaît l'amour que Warhackles porte pour les musiques symphoniques. Le producteur français nous l'a prouvé lors de son premier album Warhackles Orchestra ou encore cet été avec la bande originale du documentaire Sur le front des animaux menacés. Il nous le confirme une nouvelle fois avec son tout dernier single Storm, produit en collaboration avec Rosanda Pamphili, la première soliste de Hans Zimmer. Et ce soir, Warhackles est mon invité sur Radio FG. Warhackles, bonsoir. D'abord, tous mes meilleurs voeux. Bonne année à toi, plein de bonnes choses et surtout bienvenue sur FG.
Salut Antoine, salut à tous. Meilleurs voeux à tout le monde, évidemment. Santé, bonheur, amour, tout ça.
Alors Kevin, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail artistique, tu as toujours aimé jongler entre musique électronique et musique symphonique. D'où te vient justement cette envie de toujours vouloir mixer ces deux univers qu'on pourrait penser antagonistes au départ et finalement qui ne le sont pas du tout?
Alors si tu veux, moi j'ai une formation classique, donc en fait je reviens un petit peu aux sources dans mon parcours. C'est-à-dire que d'abord j'ai commencé par le classique, puis ensuite j'ai appris à aimer l'électro. Et donc forcément, naturellement, j'ai envie de mélanger les deux. Mais je trouve effectivement qu'il y a une un côté émotionnel, un peu plus chaleureux dans la musique orchestrale et une énergie un petit peu plus présente dans la musique électro. Et donc bah, j'ai tout simplement envie d'allier les deux pour en tirer le meilleur.
Storm, c'en est l'exemple parfait d'ailleurs, puisque tu l'as produit en collaboration avec Ruxandra Panfili, qui est la première soliste du célèbre compositeur Hans Zimmer. C'est lui qu'on retrouve d'ailleurs derrière les bandes originales des plus grands films, Interstellar, Inception, The Dark Knight. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble sur ce single, Kevin ?
Eh bien, en fait, ça s'est fait. Comment ça s'est fait ? En fait, si tu veux, il passait à Paris, à Bercy, et puis, du moins, à l'Accor Hotel Arena. Et du coup, j'étais invité donc à passer les voir, en fait, en backstage. Et puis, on s'est rencontrés à ce moment-là. Je suis désolé, j'ai mon chat qui miaule en même temps.
C'est une autre symphonie quelque part, tu me diras.
Oui, tout à fait. C'est aussi joli. Et du coup, en fait, donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et donc, évidemment, moi, je suis un grand fan de ce que fait Hans Zimmer, et les musiciens qu'il choisit sont évidemment excellents. Et donc bah, on a beaucoup accroché avec Ruxandra et aussi avec avec Gania, avec qui on a fait aussi un autre titre qui arrive bientôt, et donc sa chanteuse. Et donc en fait, si tu veux, bah, on s'est posé en FaceTime. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu se retrouver pour l'instant, mais voilà, on a écrit ce morceau ensemble. Et c'est vrai qu'on l'a pensé un petit peu comme voilà, comme si on devait traverser une tempête, un petit peu, voilà, un peu comme ce qu'on vit en ce moment, en fait, hein. Et donc, si tu écoutes le morceau, tu pourras ressentir le fait qu'on commence vraiment un genre de voyage depuis les gros nuages noirs qui grondent au départ jusqu'à l'éclaircie de la fin avec le soleil qui transperce les nuages. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a essayé de rendre au travers de la musique, quoi. Et donc voilà, une belle histoire, une belle collaboration, en tout cas pour ma part, et je suis vraiment content et j'ai hâte d'en refaire d'autres avec elle.
Alors, on parlait du compositeur Hans Zimmer, et toi, tu as aussi réalisé la bande originale d'un documentaire, sur le front des animaux menacés, présenté par Hugo Clément. Est-ce que c'est un exercice que tu as envie d'approfondir également ?
Bien sûr, j'adore ça, j'adore la musique à l'image. J'ai d'ailleurs quelques propositions pour en faire en 2021 et je suis hyper content de ça. D'ailleurs, je vais en faire aussi pour les sur le front, je vais en refaire. Hugo est devenu un copain, vraiment un ami, et donc et puis la cause qu'il défend, je l'approprie aussi parce que je suis complètement en accord avec ce qu'il défend, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il représente, etc. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment parfait, en fait, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en faisant la musique pour ce genre de documentaire, de reportage. C'est vraiment top.
Alors, pour finir, on vient de passer en 2021. Quelles sont tes résolutions, ou du moins, qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle année ?
Bah, cette nouvelle année, j'espère qu'on pourra refaire des concerts. J'espère avant tout, quand même, qu'on arrivera à se débarrasser du corona et qu'on pourra rouvrir les salles dans de bonnes conditions, parce que c'est pas le tout de rouvrir les salles, il faut les rouvrir sans que ça mette en danger la vie des gens. Et moi, j'attends d'un point de vue personnel toujours plus de collaboration, de musique, que ce soit à l'image ou pas, et continuer ma route tranquillement.
Mai 2014, Antoine Baduel reçoit Fritz Kalkbrenner.
Et ce soir, j'ai le plaisir et le prestige de recevoir le DJ allemand Fritz Kalkbrenner. La réussite de deux DJ, deux frères, c'est rare, voire inédit. Surtout que l'un des deux est une légende de la techno, l'autre un journaliste venu aux platines sur le tard. L'un s'appelle Paul, l'autre s'appelle Fritz. Il s'agit en effet des frères Kalkbrenner. Fritz Kalkbrenner qui sera aujourd'hui une des têtes d'affiche du festival Marvelous Island qui se tient à Paris, au Bois de Vincennes. Ce soir, c'est mon invité de la Piawer sur Radio FG, Fritz Kalkbrenner. Bonsoir, guten Abend.
Bonsoir, guten Abend.
Avant de parler du festival Marvelous Island, Fritz, je note que tu as beaucoup de dates en France ce mois-ci et que tu reviens souvent nous voir. Je sais que le couple franco-allemand en Europe nous oblige à nous aimer, mais plus sérieusement, comment tu expliques que les meilleurs clubs français t'invitent ? Est-ce que tu penses que tu as bâti une fanbase en France ?
Also, das ist auf jeden Fall so. Das ist in Frankreich ist eine, also A, natürlich eine große und gute Szene und
en fait,
auch eine große und starke Fanbase.
En fait, c'est normal parce que en France, oui, il y a une scène qui est vraiment importante et vraiment une scène qui est vraiment très très développée. Ja.
Und ja, es ist so, dass es also es ist so in den letzten Jahren ist es auch wie sagt man, stärker geworden. Das Interesse ist größer geworden. Und ja, das kann man schon so sagen, dass also in Zentraleuropa ist das mit einer der größten, also nicht, also außerhalb Deutschlands.
On peut dire qu'en tous les cas, c'est vrai que ces dernières années, c'est devenu beaucoup plus fort, ça s'est beaucoup plus développé. Et c'est vrai que ces dernières années, oui, la France est devenue plus importante, plus incontournable. Et en tous les cas, c'est vrai que la fanbase de Fritz est devenue beaucoup plus importante. Alors, je le disais en te présentant, à la base, tu es journaliste. Ton frère, une véritable star de la techno. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le métier de DJ, de producteur, avec l'ombre de ce frère déjà bien installé, alors que vous jouez des sons très, très différents?
Und von daher ist so etwas wie Neid oder Konkurrenz oder solche Dinge oder irgendwie so ein Willen, ist die Position. Das Problem haben wir nie gehabt.
En fait, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a jamais eu de problème de concurrence ou de jalousie entre deux. Donc déjà, il n'y a vraiment pas de problème de la sorte, parce qu'il n'y a pas de rivalité.
Und was das mit dem, also sozusagen mit meiner Entscheidung, sozusagen vom Journalisten zum Musiker zu werden, das ist in Deutschland ist das so, das sind beides freischaffende Modelle, also wo man nicht fest angestellt ist. Und das hat sich dann so ganz langsam, peu à peu, hat sich das so Stück für Stück, hat sich das so vor vielen Jahren, hat sich das dann rübergewandelt, wo ich dann auf einmal war ich
Vollzeitmusiker
und kein Sänger.
Et le fait qu'il soit passé de journaliste à DJ, d'abord, dans les deux cas de figure, c'est quand même des domaines qui sont liés à la création, mais surtout, ça s'est fait d'une manière très progressive, comme il le dit, puisque le mot en allemand est le même, c'est peu à peu. Ça s'est fait progressivement, petit à petit, et c'est vrai que du coup, les choses se sont faites d'une manière finalement assez naturelle, et qu'il s'est rendu compte que la frontière entre celle de journaliste et celle d'artiste était finalement assez mince. Alors en termes de son, c'est vrai qu'il y a des vraies différences entre Paul et toi. Lui symbolise une techno underground berlinoise, toi t'es davantage porté vers une house teintée de soul et de hip-hop. Quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui inspire tes productions? Il paraît que t'es un expert musical.
Ich kenne mich im Vergleich zu Paul kenne ich mich schon sehr gut aus. Ich habe eine sehr große Plattensammlung. Natürlich bin ich schon von früher her noch ein großer Marvin Gaye und Curtis Mayfield Fan und so. Und das kann ich, das auch wenn man Clubmusik macht in einer gewissen Art und Weise, kann man das dann nicht so negieren oder außen vor lassen. Das ist immer noch ein wichtiger und